Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles 92.1 ou radiocampus.be pour les internautes d'entre vous. Je vous propose une diffusion de l'émission le jeudi de fin d'après-midi, la fin d'après-midi du jeudi. Cette émission est consacrée à l'art, le soin et la citoyenneté. C'est un événement qui a lieu ces jeudi 23 et vendredi 24 octobre. C'est un événement, une série de rencontres initiées par le Théâtre National. Ça se passe à Maison Gertrude, à l'Espace Bruegel ainsi qu'à l'IEX. On a pendant une heure discuté avec Isabelle Collard qui est responsable de la médiation du Théâtre National et Jorge León qui lui est un artiste qui participe à ces deux jours avec son film Before We Go, qui est un film sur la fin de vie, un documentaire artistique. Ils nous ont tous les deux parlé de ce sujet immensément important, immensément riche, immensément porteur de citoyenneté, de futur, de réflexion sur le vivre ensemble, qui sont les interactions entre l'art et le soin. Je vous laisse découvrir, redécouvrir cet échange avec Isabelle Collard et Jorge León dans le jeudi de fin d'après-midi, la fin d'après-midi du jeudi, même si on n'est pas fin d'après-midi jeudi. Bonne écoute. Et donc les rencontres auront lieu ce jeudi 23 octobre et vendredi 24 octobre. Toutes les informations sur théâtrenational.be. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur le 92.1 ou pour les internautes d'entre vous, radiocampus.be. On est ici dans le jeudi de fin d'après-midi, la fin d'après-midi du jeudi, de retour après une semaine d'interruption. Et quand je dis « on », eh bien je ne suis pas toute seule en studio parce qu'il y a aujourd'hui avec moi Isabelle Jorge. Est-ce que je prononce bien d'ailleurs ?
Jorge, c'est bien.
Ah voilà, je prononçais pas bien du tout. Bonjour à tous les deux. Ils sont tous les deux en studio, c'est pour représenter une petite partie d'un mouvement, dont on va parler, comment on pourrait dire, une construction autour de l'art, du soin et de la citoyenneté, qui est lancée par le Théâtre National et puis qui est suivie par toute une série de partenaires. Est-ce que je peux dire ça comme ça ou est-ce que je me trompe, Isabelle? Je me tourne vers Isabelle qui est un peu le...
Bah, je pense que le concept, il est pas neuf. Donc, l'art, soin, citoyenneté, c'est pas quelque chose que le Théâtre National a inventé.
Non,
ça fait
sûr.
Longtemps que les rencontres entre l'art et le soin, elles ont lieu. Le concept d'art, soin, citoyenneté, c'est plutôt quelque chose qui nous vient du 3 Bicef d'Aix-en-Provence. Mm-hmm. Et voilà, c'est quelque chose qui provoque effectivement la rencontre entre ces deux mondes qui ne sont pas censés se rencontrer, l'art et le soin, et qui aussi mettent en jeu en fait des tas de questions de citoyenneté. On s'est un peu emparé de ce label-là pour créer effectivement des rencontres la semaine prochaine.
Et d'abord et avant tout, peut-être on pourrait écouter un premier choix musical que tu as proposé, est-ce que tu peux expliquer, qui est Imagine, mais revu par Colette.
Eh bien, donc effectivement, on a mené un projet qui illustre cette rencontre entre l'art et le soin, qui est la création d'un centre d'art dans une maison de repos, donc qui est un projet d'un artiste associé du Théâtre National, Mohamed El Khatib, et projet qui est porté par le Théâtre National en collaboration avec le CPS de la ville de Bruxelles, et plus exactement la résidence Sainte-Gertrude, dans laquelle a été créé ce centre d'art. Et parmi les habitants et les habitantes de cette maison, il y a Colette. Et la saison dernière, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Maxime Lacombe, qui est allé à la rencontre des habitants et des habitantes. Le mot rencontre, le mot lien, c'est un peu le mot clé du projet de centre d'art. Et il est allé les rencontrer et il leur a proposé de chanter des grands standards de la chanson qu'il connaissait, qu'il leur plaisait, etc. Et ça nous a permis de découvrir évidemment de nouvelles facettes de ces personnes qu'on côtoie au quotidien, et notamment Colette, qui est donc une habitante de Maison Gertrude, dont on a appris qu'elle avait vécu pendant des années aux États-Unis, mais je vous laisse découvrir.
Voilà, et donc on va découvrir son Imagine tout de suite, et puis on revient en studio. Merci Isabelle.
voulez-vous enregistrer le mode de vie de John Lennon ? Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of mine. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll turn up. And the world will be as one.
Et voilà, c'était Imagine, l'imagine de Colette. Reprise de John Lennon, évidemment, mis en musique par Max Soubizou,
voilà.
Qui a travaillé dans le cadre de la Maison Gertrude avec une série de résidents. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc je rappelle qu'on est en studio avec vous. Je vais encore me tromper.
Pas grave. Jorge.
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 Jorge. Jorge.
Non, c'est comme vous voulez.
Et Isabelle, pour parler d'art, de soins et de citoyenneté, je vais d'abord peut-être vous demander de vous présenter tous les deux, qui est une petite partie de ce projet du Théâtre National, qui est dans la mouvance évidemment de ces liens entre soins, art et citoyenneté. Un mouvement plus global. Mais donc vous présenter tous les deux, Isabelle, peut-être.
Donc moi je travaille en tant que responsable des relations avec les publics au Théâtre National Wallonie-Bruxelles et spécifiquement dans ce projet. En fait j'étais chargée de la coordination du projet de centre d'art dans la maison de repos. Alors j'ai travaillé avec beaucoup de monde. C'est un projet qui a effectivement rassemblé énormément de partenaires. Tant des partenaires, je le disais tout à l'heure, institutionnels comme le CPS et aussi des personnes qui travaillent dans cette maison de repos, donc des soignants, des coordinateurs, des coordinatrices, du personnel hôtelier, du personnel paramédical, des habitants, des habitantes, des artistes, le personnel technique du Théâtre National. Enfin bon, ça fait beaucoup de monde en fait qui ont été réunis pour construire ce projet qui a quand même, qui a commencé en 2022, le centre d'art ayant été inauguré en mai 2025.
Oui. Voilà. Le 23.
Exactement, le 23 mai.
Oui, moi je suis cinéaste et metteur en scène. Et donc, il s'avère que la dernière création théâtrale a été produite par le Théâtre National. et cinéaste donc également. Il s'avère que dans le cadre justement des rencontres Arts, Soins et Citoyenneté, l'équipe a décidé de projeter à nouveau un film que j'ai réalisé il y a plus de 10 ans en fait, et qui s'appelle Before We Go, et dont j'aurai l'occasion de parler dans quelques jours.
Et puis un petit peu ici à l'antenne peut-être.
Oui,
et donc on précise votre nom de famille, c'est donc Isabelle Collard qui travaille au Théâtre National et Jörg Leon.
Oui, voilà, super.
cinéaste et homme d'art en général. Et est-ce que Isabelle, justement, tu peux emboîter sur ce que le Théâtre National, au-delà du centre d'art Maison Gertrude, a impulsé et comment se font ces liens entre art et soins. Peut-être dire aussi en prémisse qu'on fait cette émission parce que la semaine prochaine, il y aura 2 jours qui sont consacrés à ces thématiques art, soins et citoyenneté, avec des projections, avec des échanges, des tables rondes, donc une sorte de colloque de 2 jours. Donc c'est jeudi et vendredi prochain. Mais donc concrètement, comment est-ce qu'on fait dialoguer? Donc tu as un peu dressé le portrait de Maison Gertrude, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais comment est-ce qu'on fait dialoguer en fait l'art, le soin et la citoyenneté, qui sont effectivement des choses qui a priori, quand on est dedans, on se rend compte que évidemment ça se parle, mais qu'on n'a pas comme ça en tête au départ.
Mais justement, je pense que l'ambition de ces rencontres, je dis plutôt rencontres que colloques,
oui,
plus humblement, mais l'ambition, effectivement, c'était justement de s'intéresser à ça, la question qu'on s'est posée. Donc on travaille aussi, donc la mise en place de ces deux journées, elle s'est faite avec Camille Louis, qui est dramaturge et qui écrit pour le moment un livre qui s'appelle La fabrique des yeux secs. Elle est aussi philosophe. Et elle s'intéresse beaucoup, elle est aussi artiste associée aux 3 Bicefs, dont j'ai parlé tout à l'heure, et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que Jorge risque d'en parler aussi, il a aussi travaillé au 3 Bicefs. En fait, le 3 Bicefs, c'est un centre d'art aussi, mais qui est installé dans un hôpital psychiatrique à Aix-en-Provence, l'hôpital de Montperrin. Et la particularité, effectivement, de ce centre d'art, c'est que c'est donc un bâtiment, un pavillon, vraiment au sein de l'hôpital, dans lequel les artistes sont invités à travailler, et dans lequel aussi, pendant le travail des artistes, les patients de l'hôpital peuvent effectivement passer, venir, rencontrer les artistes, etc. Donc il y a toute une rencontre aussi et une porosité, je vais dire, entre le travail artistique et les patients, mais aussi les soignants. Donc il suffit tout un travail avec les soignants. Et je pense que le 3 Bicefs, depuis quelques années, mais Jorge vous en parlera mieux parce que lui, il a été carrément en résidence dans le centre d'art, donc il pourra parler évidemment de cette expérience-là. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'ils ont développé tout ce pôle de rencontre entre art et soins pour se rendre compte, effectivement, que ça faisait énormément de bien et aussi que ça, à un moment donné, ça convoquait des questions plus larges de citoyenneté. C'est vrai que c'est eux qui ont imaginé ce label Art, Soins, Citoyenneté, parce que finalement, les questions qui sont abordées au détour de ces rencontres entre art et soins, c'est aussi finalement des questions de citoyenneté, plus simplement, de vivre ensemble.
Comme
en
lesquelles,
fait,
par exemple, oui, justement.
Ce sont toutes les questions de vivre ensemble, de comment, à un moment donné, ça peut prendre plein de figures. Ça peut prendre comment est-ce qu'on vit dans la cité quand on est souffrant ou quand on a été malade. Mais ça peut prendre aussi la forme de qu'est-ce que c'est vivre ensemble quand on doit mettre ensemble toutes les différences. Enfin, ça, franchement, c'est toutes les questions qui sont liées, largement au vivre ensemble. Et donc, nous, ça nous a particulièrement intéressés. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on commence beaucoup plus modestement ici à Bruxelles. Et notre angle d'attaque, c'était de se dire, tiens, on se rend compte que les lieux de soins font régulièrement appel à des artistes pour venir travailler avec les personnes qu'ils accueillent. Et vice-versa, les artistes sont très intéressés par ces invitations. Et eux aussi ont envie d'aller à la rencontre, effectivement, de ces lieux de soins. Et on s'est demandé, en fait, pourquoi ? Ce serait intéressant à un moment donné de partager toutes ces expériences. Alors je ne suis pas certaine qu'on va répondre comme ça de but en blanc à la question pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que partant de toutes ces expériences et de tout ce savoir qu'ont développé les artistes, les soignants, alors on va dire quoi, les bénéficiaires, les usagers, les patients, les habitants, les habitantes, tout ça va dépendre effectivement
de la
des
structure
lieux de
dans
soins,
lequel...
voilà, dont qui vont être, qui sont invités. Il y a différents types de lieux et tout ça, en fait, on va mettre en présence en fait toutes ces personnes-là dans les deux journées. Donc le premier jour, on va plutôt être sur la rencontre entre institutions et artistes et les rencontres entre, donc par exemple entre nous, artistes du Théâtre National et la résidence Sainte-Gertrude, entre le 3BICEF et une artiste qui s'appelle Marcella Santander-Corvalan, qui est chorégraphe et qui travaille aussi en résidence au 3BICEF, et comment le travail qu'elle mène dans ce centre d'art quand elle est en résidence influence son travail. Donc c'est vraiment ce genre de questions. Et le deuxième jour, le vendredi, là on sera plutôt entre des personnes qui travaillent dans les lieux de soins, donc soignants, éducateurs, éducatrices, on est avec des profils de nouveau différents, et je dis, répète, usagers, usagères, bénéficiaires, on trouvera à chaque fois le bon vocable pour désigner effectivement les personnes qui sont là, mais bon, tout ça est un peu variable, mais ce sera ce point de vue-là. Donc qu'est-ce que ça leur apporte, eux? Ce sera ce point de vue-là qui sera exploré le vendredi.
Le vendredi, ouais.
Voilà.
Le partage du sensible.
Voilà, ce sera du partage sensible, ouais. C'est ça le but.
Et donc peut-être, Yorke,
oui.
En tant qu'artiste, justement, Isabelle l'évoquait, il y a eu cette résidence, comment se fait, d'abord pourquoi cet intérêt à mener cette expérience, qui est une expérience qui n'est pas commune, même si on peut avoir une sensibilité particulière, mais pourquoi avoir voulu mener cette expérience artistique différente, et comment ça se fait très concrètement?
Je pense que ça varie en fonction des situations et des projets. Évidemment, là, il s'avère qu'en effet, le film auquel j'ai travaillé, qui n'est pas le film qui sera projeté d'ailleurs jeudi prochain, mm-hmm. c'est un film qui s'appelle Mitra, était lié à des échanges d'emails entre deux psychanalystes, et la question de la santé mentale était très au cœur même du projet, et il me semblait important d'ancrer en fait cette question-là dans les lieux où cette question de la santé mentale se vit au quotidien, à la fois par les personnes concernées en tant que patients, patientes, mais également par rapport aux soignants. Et donc j'ai eu la possibilité, grâce entre autres à Bernard Faucroul, qui était à l'époque directeur du Festival d'Aix-en-Provence, qui m'a introduit en fait dans cet hôpital Montperrin, où j'ai eu la possibilité vraiment de créer du lien avec les patients et les patientes qui le souhaitaient. J'insiste, c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir insister aussi plus longuement, c'est que c'est un travail qui ne fonctionne que si ça génère du désir chez les personnes
concernées. Ça va dans les deux sens.
Voilà, donc... il s'avère que là ça s'est passé, la rencontre a eu lieu avec toute une série de personnes qui résidaient en fait dans ce centre psychiatrique, et ça m'a permis de filmer en fait toute une série de situations très concrètes, très précises dans le cadre de cet hôpital, mais toujours par le biais de la création. J'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment à mes yeux une vraie différence à faire, mais peut-être c'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler, mais par rapport à la dimension de l'engagement aussi qu'on attend en tant qu'artiste de la part des personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport occupationnel. Mm-hmm. Il pourrait y avoir oui. cette espèce de condescendance à se dire « Ok, moi, en tant qu'artiste, je vais vous occuper puisque mm-hmm. de toute façon, votre emploi du temps, vous ne faites pas grand-chose de la journée. Oui. » En gros, je schématise.
Qu'on n'est pas dans l'art-thérapie.
Et on n'est pas... Ça, c'est aussi une autre question. On n'est pas dans l'occupationnel
oui.
et on n'est pas dans l'art-thérapie. En tous les cas, moi, jamais je ne me considérerais comme un art-thérapeute parce que je pense que la thérapie demande, d'une certaine façon, exige une espèce de garantie de résultat ou d'attente de résultat.
Thérapeutique.
Thérapeutique. Voilà. Or, en tant qu'artiste, je ne peux que proposer quelque chose qui m'anime et de voir où mon désir rencontre le désir de l'autre. Et si cette rencontre a lieu, ça produit une œuvre artistique. Mais avoir la prétention de soigner qui que ce soit à travers ce que j'initie, ça me semble impossible à dire, à formuler, moi, de là où je suis.
Et donc, concrètement, comment on balise ça, parce que c'est pas, oui, ça doit pas toujours être évident, non, puisqu'on arrive dans un milieu, là spécifiquement c'est un milieu psy, oui. C'est encore différent au niveau de la maison Gertrude, l'Institut Sainte-Gertrude, mais là on arrive dans un milieu psy, donc avec des codes aussi, ou l'absence de normes comme on pourrait trouver ailleurs, mais en tout cas avec des codes, oui, avec des traitements, avec quelque chose qui est relativement lourd, oui. Et comment est-ce qu'on balise son travail, comment est-ce qu'on arrive avec un univers particulier aussi, puisqu'on est, dans le domaine de l'artistique, comment est-ce que ça se fait, cette rencontre-là ?
Mais cette rencontre, je pense que le point commun, quelle que soit la nature de ce qui habite les personnes qui vivent dans tel ou tel lieu, ce qui relie tout ça, ça reste malgré tout la dimension institutionnelle, quoi. C'est-à-dire, ce sont des institutions qui ont aussi des modes de fonctionnement très spécifiques, souvent d'ailleurs hyper hiérarchisés, etc. Donc, en tant qu'artiste, arriver dans une structure comme celle-là, ça demande évidemment de rentrer en dialogue avec et prendre connaissance justement de ces codes. À partir du moment où il y a quelque chose qui s'organise de l'ordre de l'accord, alors le travail peut commencer dans la rencontre avec des personnes. Et donc, bon, je vous passe les détails, mais moi, en ce qui concerne Mitra, ça a pris 4 ans, en gros. C'est-à-dire des allers-retours. Évidemment, je ne suis pas resté 4 ans dans un hôpital psychiatrique, mais ça prend du temps, énormément de temps. Il faut faire avec le désir de l'autre, aussi avec sa fragilité, avec la fragilité du projet lui-même, c'est-à-dire les questions de production qui vont, qui viennent. Évidemment, il y a tout un travail de mise en place. Et puis, il y a aussi la responsabilité des soignants qui sont là pour s'assurer qu'un certain cadre soit respecté. Et tout ça, en fait, pour moi, et c'est en ça que ça rejoint aussi un travail de citoyen, c'est-à-dire que travailler toutes ces questions-là, c'est vraiment travailler les questions de la cité, des questions sociétales, en fait. C'est comment,
du vivre ensemble.
Comment faire pour vivre ensemble et faire avec nos différences, et aussi construire, toujours dans cet esprit de construction et d'aller vers, quoi. Et ça, c'est passionnant en soi comme apprentissage. Alors après, le résultat artistique, c'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est encore...
Tant mieux quand c'est réussi. Oui. Mais il y a des expériences extrêmement belles qui ne donnent parfois pas spécialement lieu à des objets artistiques spécialement grandioses. Mais l'expérience en tant que telle...
Le chemin, oui. Et si, pour rester sur Mitra, et puis on passera... Mais s'il fallait pointer une des plus grandes difficultés et une des plus belles richesses, même si elle n'est pas visible dans le projet fini, mais les deux points d'extrême, si on peut dire.
Oui, on parle d'extrême, en effet. Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, par exemple, imaginer travailler en atelier avec une personne spécifique avec laquelle il y a un attachement très particulier, très fort, au niveau de la rencontre, au niveau de ce que cette personne accepte de révéler, de dire d'elle-même, et aussi son rapport à la création. S'enthousiasmer sur le fait que cette personne va se retrouver dans le film, et puis 6 mois plus tard retourner sur le lieu et on m'annonce que cette personne est en isolement, c'est-à-dire dans une cellule d'isolement où il n'y a pas la possibilité de sortir et où on me dit laisse tomber, quoi. Et puis puisque vous me demandez d'évoquer un élément plus lumineux, c'est justement l'inverse, c'est que 3 semaines plus tard, cette même personne sort de l'isolement et me dit « je veux être dans ce film » et il y est. Et voilà, c'est peut-être là où je pense qu'il y a une question très très mystérieuse qui est de l'ordre du désir. Et arriver à avoir la possibilité, l'occasion de partager tout ça, c'est immense, en fait.
Et c'est là que finalement la création et le chemin de la création va peut-être au-delà de l'institution, oui, parce qu'on parlait de l'institution et du fait que tout ça soit cadré par les institutions, mais cette anecdote, qui n'est pas une anecdote en fait, qui est une histoire de vie, va au-delà de l'institution.
Ça transcende totalement ça. Et vraiment, je n'en parle pas d'un point de vue romantique, hein, parce
oui,
que
oui, bien sûr, c'est très concret.
En fait.
Oui,
c'est
oui.
Absolument concret. Mais lorsque ça a lieu, ça donne un sens à tout, à notre présence, à tout ce qu'on met en place. Ça donne aussi un sens à ces rencontres que Isabelle organise, par exemple. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses aussi à dire, à théoriser d'une certaine façon. Ce n'est pas juste... Évidemment, c'est de l'ordre du partage d'expériences, mais de là découle aussi la possibilité de mettre en place aussi des pratiques qui peuvent être très fructueuses, tant d'un point de vue artistique que d'un point de vue citoyen, et idéalement même d'un point de vue des soins. Mais ça, c'est peut-être aux soignants à en parler.
Mais on va faire une petite pause musicale avant de justement peut-être d'aborder cette partie-là de ce qui découle aussi au-delà de la démarche artistique, de tous ces chemins qui sont mis en place. Et on va choisir on va aller du côté du choix de York Leon. je vais y arriver à la fin de l'émission. C'est People Have the Power de Patti Smith. Yes. Si j'y arrive. The power. puis voilà, on vient d'écouter le choix de York Leon, auteur, scénariste, cinéaste, pardon, artiste. On est toujours à Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, sur le 92.1 ou sur radiocampus.be. Et on est toujours en présence de York et d'Isabelle Collard, du Théâtre National, pour parler d'art, soins et citoyenneté. Et donc, j'avais envie de me tourner vers toi, Isabelle, et justement pour parler de ce concept de lien entre art et soins et du Théâtre National, puisqu'on est là pour parler ces deux jours de rencontres, comme tu le soulignais, qu'il y a autour de ce thème, qui auront lieu jeudi et vendredi prochain, à la Maison Gertrude. Tout se passe à la Maison Gertrude, je pense.
Oui, en fait, les rencontres ont lieu à Maison Gertrude. La projection du film de Jorge, c'est à l'IEX. Et le soir, en fait, il y a la lecture d'un extrait du livre de Camille Louis dont je parlais, La fabrique des yeux secs, au Centre Bruegel. Donc, rencontre Maison Gertrude, film IEX et spectacle à la. Donc,
tout est dans un périmètre tout à fait pédestre.
Tout à fait.
je voulais souligner aussi qu'en fait, au Théâtre National, Clément n'a pas pu être avec nous, parce que Clément Papachristou, qui vient de présenter sa pièce Justice au Théâtre National, qui est artiste associé au Théâtre National. Tu soulignais tout à l'heure que le projet de Maison Gertrude était un projet qui avait été initié par Mohamed El Khatib, qui est lui, et Zir Libre, sa compagnie, qui est lui aussi un artiste associé au Théâtre National. Ces deux artistes sont, et Jorge qui a aussi pu avoir des productions avec le Théâtre National, ce sont des artistes qui sont particulièrement sensibles à cette notion de soins. Mohamed El Khatib, quand il parlait de la Maison Gertrude, disait presque que plus il fait de l'art, plus il a envie de faire du soin par l'art. Clément Papachristou, qui lui avait déjà travaillé avec son frère jumeau dans un premier spectacle, enfin dans un spectacle où ils étaient tous les deux en scène, qui abordait déjà cette notion de la différence finalement aux yeux du public. Ici, Justice, c'est les cercles de l'enfer qui sont traversés par une personne porteuse du syndrome de Down, donc qui est trisomique, comme on dit dans
trisomie 21, ouais.
Trisomie 21, comme on dit dans le langage courant, et qui est finalement, on a un regard validiste envers elle, on lui demande et finalement elle est sous tutelle. Donc ce sont tous des créations qui portent un intérêt très très important à cette notion de regard, cette notion de soin liée à cette notion d'art, donc qui est portée par le ces créations sont portées par le Théâtre National, donc il y a aussi un intérêt du Théâtre National à ce type de démarche artistique. Et justement, York abordait avant l'interruption musicale ces chemins qui sont à définir, à tracer, après avoir travaillé ces deux notions d'art et soin sur le terrain, finalement. Et qu'est-ce que le Théâtre National, notamment dans ces deux journées qui vont avoir lieu la semaine prochaine, et autres, quels sont les chemins, justement, d'ailleurs, que vous pouvez aussi prendre la parole, quels sont les chemins qui se dessinent, justement, pour aller au-delà, peut-être, de l'art, dans cette dynamique, en fait, de lier les deux. Et est-ce qu'il y en a?
Je pense, pour rebondir sur ce que Jorge disait tout à l'heure, et je pense que c'est très important de le répéter, les artistes avec lesquels on a travaillé dans le Centre d'art, donc pour rappel, rapidement, le Centre d'art, en fait, donc c'est 3 ans de construction, des résidences d'artistes, donc des artistes qui sont venus travailler dans la maison de repos, pour la plupart qui ont vécu et dormi dans la maison de repos, ils vivaient le quotidien avec les habitants, les habitantes, le personnel soignant, hôtelier, administratif, j'insiste aussi sur tous les aspects, effectivement, d'une maison de repos qui abrite 120 habitants, habitantes, et à peu près le même nombre de membres du personnel. Donc c'est quand même une belle grosse machine, et donc quand les artistes arrivent dans la maison de repos, nous on était là en fait pour les accompagner, pour les aider à créer du lien avec toutes les personnes qui faisaient partie qui font partie de cette maison de repos, parce qu'en fait, le projet, c'était aussi que ces artistes créent in situ. Donc, a priori, ils n'arrivaient pas avec une idée préconçue d'une œuvre qu'ils allaient créer dans la maison.
L'œuvre se faisait dans la rencontre.
Mais elle se fait... Ah, voilà. Donc, en fait, c'est
parfois, en fin de journée, dans les escaliers de Sainte-Gertrude.
Exactement. Et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est finalement une histoire de lien qui va mener à la production d'une œuvre. Donc, on est le début du projet, c'est vraiment une histoire de lien. Donc, Pierre, aujourd'hui, Pierre Theys, qui est le directeur du Théâtre National, il dit que finalement, on est en train d'explorer ce qu'on pourrait appeler un théâtre de la relation. Et un théâtre, en fait, qui se raconte aussi sur d'autres scènes que les plateaux de théâtre, puisqu'ici, on est dans une maison de repos. Donc, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le Théâtre National fait dans une maison de repos? Mais en fait, l'idée, c'est d'aller aussi à la rencontre de nouveaux récits, d'autres récits qui se jouent sur d'autres scènes, mais qui sont des récits aussi qu'on a aujourd'hui envie d'entendre. Donc ça, c'est vraiment la démarche du Centre d'art. Donc ces artistes étaient en résidence, ils créaient in situ, et les œuvres aujourd'hui, elles sont dans la maison de repos, accrochées, mais attention, c'est pas un espace dédié.
C'est dans toute
la maison de repos, à tous les étages. Et parallèlement à la création d'œuvres, il y a aussi la transformation des espaces pour améliorer le bien-être des habitants, des habitantes et du personnel. Parce qu'on a essayé effectivement d'être à l'écoute de nouveau de tout cet écosystème où effectivement, nous, on avait rien à leur apprendre. Alors ça aussi, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est arrivé dans un endroit où, vous savez, quand on fait venir des publics dans une salle de théâtre, pour le dire un peu simplement, on est un peu surplombant par définition. Nous, on demande aux gens de venir voir un spectacle. Bien sûr, on travaille avec eux, on les accompagne pour voir le spectacle, etc. Mais qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, n'aura pas beaucoup d'influence sur le spectacle qu'ils ont vu, parce que ce spectacle, en fait, il va continuer à se jouer. Ici, dans le projet Maison Gertrude, on était à un tout autre endroit parce qu'en fait, on est arrivé sur un terrain qu'on ne connaissait pas. Et ce terrain que nous ne connaissions pas ne nous connaissait pas non plus. Donc en fait, on est partis un peu tous à zéro. Moi, je sais que j'ai souvent dit que c'était une histoire de première fois. En fait, c'était un peu la première fois pour tout le monde. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais ça a fortement changé en fait les rapports. Et ça a permis aussi finalement ce travail de construction ensemble. Je veux dire, où ces œuvres étaient vraiment créées in situ, parce qu'elles étaient influencées par l'environnement, et l'environnement apportait son aide à la création de l'œuvre, à la construction de l'œuvre, à la réalisation de l'œuvre. En fait, ça s'est passé toujours à beaucoup d'endroits différents. Et là-dessus, j'ajoute que effectivement, les artistes ne sont pas des thérapeutes et qu'ils ne se sont jamais définis comme ça. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand nous, on parle de soins, on ne parle pas de soins thérapeutiques. Mm-hmm. On n'est pas là pour remplacer les soignants. Au contraire, on était là effectivement pour apporter du soin. Et je disais à Jorge pendant le morceau de Patti Smith que, en fait, ce qui est le plus incroyable dans ce projet, c'est que bien sûr, on savait qu'on avait l'espoir qu'il y ait plein d'avantages collatéraux, des choses qui allaient se jouer, mais qu'on ne pouvait pas exactement mesurer. Et en fait, il y en a énormément.
Comme quoi ?
Par exemple, des habitants, des habitantes qui participent à la création d'une œuvre, ou à la transformation d'un espace, ou à la peinture d'un mur, hein, pour être tout à fait concret, ou à la construction d'une bibliothèque, et qui tout à coup nous disent aujourd'hui, mais moi j'ai apporté ma toute petite contribution, moi j'ai participé à ce projet, j'ai apporté ma petite contribution, et aujourd'hui quand je vais dans la cafétéria, ben, c'est moi qui ai construit cette bibliothèque, et là je me dis, mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, une des demandes c'était de ramener du chez-soi, ben, c'est comme si on a construit sa bibliothèque dans son salon, enfin je veux dire, oui. Pour le dire un peu simplement. Et ça, ce sont des avantages qui sont énormes, parce que ce sont des choses qui font du bien. Donc on parle de soins, ça fait énormément de bien. Cet habitant, il nous a dit, j'ai dormi comme j'avais plus dormi depuis longtemps. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui le raccroche à l'endroit dans lequel il vit. On ne va pas revenir sur tout ce que ça veut dire d'aller vivre dans une maison de repos, mais c'est quand même quitter un chez-soi, laisser beaucoup de choses derrière soi, pour aller dans une petite chambre, ne prendre que ce qu'on peut transporter, que ce qu'on ne veut pas voir disparaître.
Peut-être que ce qui peut même... entrer dans cette petite chambre.
Et parfois, de ne pas prendre tout ce qu'on aime parce qu'on a peur que ça disparaisse. Donc, il y a vraiment... Enfin, je veux dire, c'est toute une démarche, c'est vraiment c'est complexe. Et là, tout à coup, on est entré dans autre chose. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. Il y a 120 personnes. Rory disait tout à l'heure,
oui, c'est ça.
C'est important qu'il y ait du désir, qu'il y ait l'envie. Je pense que la force du projet, c'est d'amener des artistes qui travaillent avec des médiums différents. Il y a des plasticiens, il y avait des gens qui venaient plutôt du secteur de l'art vivant. Donc, il y a à la fois, on a récolté des témoignages, on a construit une œuvre en dentelle géante, on a crocheté, on a peint. Il y a plein de choses qui se sont faites, transformé les espaces, comme je disais. Et donc, ça a permis, on va dire pour le moment, à beaucoup de monde de participer. Et puis, il y a des personnes qui ne participeront jamais. parce que ce type de projet ne leur parle pas. Le pire, ce ne sont même pas ceux qui sont contre, parce que ça, c'est intéressant. Les personnes qui sont contre ou les personnes qui sont pour, ça crée du débat. Et c'est formidable de voir arriver le débat s'inviter dans la maison de repos. Ça paraît un peu idiot, mais c'est très intéressant à un moment donné de voir que ça discute.
Le débat, c'est la vie aussi.
Voilà, exactement. Et c'est un lieu de vie. Il faudrait quand même pas oublier aussi que c'est un lieu de vie. Mais bon, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, et ça, je tiens quand même à le dire. Et donc, par exemple, c'est toute une attention aussi, un soin qu'on doit prendre, parce que nous, maintenant, on va chez eux. Par exemple, on va organiser des rencontres pendant 2 jours. Ça a un impact, évidemment, sur la vie de la maison.
Et il y a des visites aussi.
Il y a des visites guidées de mercredi par mois. Donc, pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir le centre d'art, vous trouverez toutes les informations sur le site du Théâtre National. Donc, il y a deux visites qui sont organisées tous les mois, plus d'autres visites pour certains groupes qui ne peuvent pas venir dans ces moments-là. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui implique effectivement qu'on reste, nous, en contact permanent, à la fois avec les personnes qui travaillent dans cette maison et qu'on ne peut pas déranger impunément, et les gens qui vivent dans cette maison qu'on ne peut pas plus déranger impunément. Donc, il y a vraiment tout le temps ce travail-là, tout en sachant qu'on ne plaira pas à tout le monde. Mais qu'en même temps, voilà, ça continue à faire vivre. Je pense que c'est une des grandes forces du projet, c'est d'ouvrir les portes d'un lieu qu'on ne veut pas voir. C'est pas facile d'entrer dans une maison de repos, sauf si on y est amené pour des raisons personnelles. Et donc ici, l'objectif, c'est de donner envie de franchir la porte d'une maison de repos, et je pense que d'y découvrir des choses qu'on n'imagine pas.
Oui. Et je poserai la question comme je l'ai posée ailleurs, quels sont pour toi le moment le plus fort jusqu'à présent, puisque c'est un en cours, ce projet de Maison Gertrude, le plus fort et finalement le plus difficile de ce projet?
Waouh. Alors, des moments forts, il y en a énormément. J'avoue que pour le moment, je prends un exemple très récent, mais il y a une habitante en fait qui aujourd'hui s'est complètement investie dans les visites guidées, et elle est guide des visites, et je pense que c'est une des plus belles choses qui arrivent dans ce projet, parce que personne n'égalera jamais Laurence dans les visites guidées. C'est vraiment, elle est formidable, elle est la meilleure personne pour parler du projet. Elle ne tait pas les difficultés et elle parle effectivement du bon endroit. Donc ça c'est vraiment cadeau, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Donc voilà, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, dans les difficultés, il y en a quand même eu quelques-unes, des blocages, mais je pense que, enfin, de nouveau, c'était pas grave, parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas comme on le souhaitait, on remettait l'ouvrage sur le métier, on allait à la rencontre des gens, on discutait et puis on voyait. Le plus difficile, en fait, dans ce genre de projet, c'est de ne pas penser à la place des autres. Je crois que quand il y a eu des blocages, c'est quand tout à coup on a oublié qu'on n'était pas tout seul à travailler dans cette maison. Je crois que c'est vraiment le lieu en fait essentiel du projet, c'est de travailler avec.
Mais justement, j'avais envie de te poser la question aussi, parce que c'est art, soin et citoyenneté. On l'a un peu évoqué aussi en début d'émission. Parce qu'on évoquait le fait de se dire, finalement, c'est aussi des projets qui mettent en marche la réflexion sur le comment vivre ensemble, comment faire société, comment être citoyen d'un monde de pluralité, en fait. Et si, toi, à toi qui chapeaune, en fait, quelque part, logistiquement, ce croisement, c'est-à-dire le croisement entre les artistes, entre toute une partie des personnes qui sont à côté des artistes, parce qu'il y a aussi tous ces... moi, je pense au scénographe, par exemple, de Zirlib, qui a conçu les espaces, qui a fait un travail assez énorme, structurel, dans cette maison, avec parfois des bouts de ficelle, quelques planches et des meubles qui ont été pris au puce, qui sont à 2 pas de la maison Gertrude. Les soignants, les habitants, ça fait beaucoup de personnes différentes. Et toi, en tant que citoyenne aussi, au-delà de ta casquette de médiatrice dans cette qu'est-ce que tu peux à ce stade-ci détacher de cette expérience-là, vraiment au niveau de la citoyenneté, en fait?
Ben moi, je pense que ce projet, alors ça, c'est vraiment tout à fait personnel, hein, il a quelque chose de réparateur. C'est-à-dire que je crois que effectivement, ce que je disais, que c'était des lieux qu'on ne voulait pas voir. Enfin, c'est pas tellement les lieux qu'on ne veut pas voir, ce sont les personnes qui sont dans les lieux qu'on n'a pas envie de voir, parce que là, voilà, dit un peu crûment, je pense que la vieillesse, ça fait peur. Que si on a été confronté soi-même à une expérience de maison de repos, ce sont en général des expériences douloureuses. C'est rarement quelque chose qui est vécu comme c'est tout à fait le choix de la personne de décider d'aller vivre dans une maison de repos. Ça arrive, hein, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il y a quand même souvent des expériences qui sont plutôt des expériences difficiles à vivre du point de vue, par exemple, des enfants dont les parents doivent être placés. Et du coup, il y a cet aspect-là, donc qui peut être un aspect complètement privé, intime. Et puis, quand même, notre rapport aussi, simplement en tant que citoyen, à la vieillesse. Et je trouve que ce projet, en fait, il a quelque chose de réparateur parce qu'il répare cette image de la vieillesse qui n'est pas un endroit, du coup, de perdition, d'inutilité, d'inactivité, voilà. C'est pas ça, en fait. Aller à la rencontre, effectivement, ce centre d'art, en fait, il permet d'aller à la rencontre des gens qui vivent dans cette maison. Et les personnes qui sont là, elles ne sont pas l'image qu'on peut avoir, effectivement, de l'image qui fait peur, en fait, l'image de la vieillesse qui fait peur, pour la mettre entre guillemets. Et donc, en ça, moi, je trouve que c'est un projet qui est très, très fort, qui fait du bien aussi, enfin, du coup, qui est réparateur, donc, qui prend soin.
Donc, si je vous entends tous les deux aussi, ce que vous dites depuis le début, c'est d'aller au-delà de ce qu'on pourrait penser au départ des images qu'on plaque sur différentes réalités ou ce qu'on croit être des réalités, que ce soit le domaine psychiatrique, le domaine du troisième âge ou du quatrième, ou parfois du deuxième, mais qui est précocement en structure d'accueil. C'est aller derrière ces images-là, ce que ça nous propose aussi, ces expériences-là, je ne sais pas.
Oui, peut-être en effet, pour prolonger ce que disait Isabelle, il y a peut-être, c'est peut-être à la fois un paradoxe, mais en même temps, ça expliquerait peut-être cet attrait peut-être mutuel entre l'artiste et son travail, et puis ces lieux-là, c'est que d'une certaine façon, on pourrait dire que tous les lieux, enfin que ce soit des lieux liés aux personnes âgées, que ce soit les centres psychiatriques ou même les espaces de fin de vie dans lesquels j'ai tourné Before We Go, ce sont des lieux de la périphérie, ce sont des lieux un peu de l'ombre, en fait, pour utiliser une métaphore, qui sont en général un peu évacués du centre de nos vies.
Pour et des surtout raisons. Maintenant qu'on est dans une vie voilà. Trépidante, qui doit aller toujours plus vite, toujours
Absolument.
Plus...
Alors que paradoxalement, le travail de l'artiste, l'œuvre est censée aller vers la lumière, est censée exposer, est censée mettre au cœur les choses. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui, je pense, est très attirant, c'est-à-dire, d'une certaine façon, mettre un peu de lumière là où, en fait, on a un peu trop tendance à maintenir dans l'obscurité. Et voilà, ça me semble quand même être un enjeu de taille, parce que on ne va pas juste allumer un flash de lumière dans un endroit juste pour le plaisir. On y va parce qu'il y a une énigme là qui nous concerne, nous, très intimement en tant qu'artistes. Et je pense, en tant qu'artiste, mais également, en effet, en tant que citoyen. Oui. Et donc, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il y a un désir de partage de ça, en fait. Oui. De cette énigme, peut-être de savoir qui naît de la rencontre également. Tout ça, vraiment, ça demande à la fois énormément d'ambition et beaucoup d'humilité.
D'humilité, j'allais dire, oui. Moi, je propose de refaire une petite pause musicale et après, on entrera dans le concret, vraiment, notamment avec Before We Go et le concret de la programmation de ces deux jours. Mais on va d'abord danser avec Dalida. C'est un choix d'Isabelle. Peut-être tu veux en dire un mot. Laissez-moi danser, Dalida.
Ouais, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans le jukebox de la maison de repos. Donc voilà, c'est une musique qui me rappelle Maison Gertrude.
Et ben voilà, et puis danser parce qu'autrement on est foutu, hein, on le sait bien. Donc on va danser pendant quelques minutes et puis on reprendra l'antenne. À tout de suite, Dalida, laissez-moi danser.
moi je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser.
Voilà, c'était donc Laissez-moi danser de Dalida, le choix d'Isabelle Collard. On est toujours en studio sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, avec Isabelle Jorge pour parler d'art, de soins et de citoyenneté, puisqu'il y a deux journées qui vont être consacrées à ces thématiques. La semaine prochaine, c'est organisé par le Théâtre National, ça se fera entre l'IEX, la Maison Gertrude et le Centre Bruegel. Dans les Marolles et au pied des Marolles pour l'IEX. Et je voulais, donc après avoir un petit peu parlé de ces thématiques croisées, rentrer dans le vif du sujet de ces deux journées et peut-être d'abord parler de Before We Go, qui est donc un documentaire artistique, est-ce qu'on peut dire un objet artistique documentaire, qui traite de la fin de vie, que vous avez fait, Jorge León. Peut-être en dire quelques mots. Donc, il sera projeté le jeudi soir.
Jeudi après-midi,
oui. Jeudi soir, c'est la lecture.
Voilà.
Mais on reviendra sur l'horaire du programme. mais donc, ce sera projeté à l'IEX jeudi après-midi. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, voire beaucoup de mots?
Oui, c'est un film que j'ai réalisé il y a déjà quelques années. En gros, j'ai travaillé pour des raisons personnelles, mais aussi citoyennes. J'ai travaillé pendant très longtemps en tant que bénévole dans un centre de soins palliatifs, un centre qui accueille des personnes qui se savent en fin de vie, un centre de jour. Et c'est au contact quotidien quand même. Donc, en gros, j'y allais pour cuisiner le midi, pour préparer les repas et puis... Et puis vivre et tenter d'aider dans la mesure du possible, en gros. Et puis il s'avère qu'au contact de ces personnes, j'ai été enfin, totalement ému par, aussi par le fait que j'avais l'impression que ces personnes détenaient un savoir qui m'était étranger, quoi. C'est-à-dire que je me sais mortel et en même temps, on ne m'a jamais dit un jour, bah, tiens, là, dans 6 mois, c'est possible que ce soit la fin. Voilà, c'est donc c'est parti, j'évoquais l'énigme là tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire essayer d'aller vers à la rencontre de personnes dont je considère qu'ils avaient un savoir que je ne possédais pas. Et voilà, j'ai décidé au bout d'un moment, mais au bout de 10 ans, hein, après avoir travaillé là pendant une dizaine d'années, j'ai décidé de proposer de réaliser un film avec les personnes qui le souhaitaient. Voilà, et pour ce film, on a quitté l'espace thérapeutique. Je ne voulais pas en faire un documentaire au sens classique du terme. Et donc, les personnes qui ont contribué au projet ont quitté cet espace thérapeutique et on a migré, en fait, vers un lieu voilà, qui me semble un peu emblématique de la représentation du tragique et qui est l'Opéra de la Monnaie. Voilà.
Et donc, c'est une rencontre
Oui, c'est une rencontre. Alors, le film contient une série d'énigmes. Hein. Le film ne tente pas d'expliquer. On ne sait pas qui sont ces personnes. Alors, on pourra en reparler longuement, d'ailleurs. Ça a été un choix éthique de ma part. C'est-à-dire, il s'avère que je ne contextualise pas du tout. Et donc, il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent à mesure que le film évolue. Toutes les réponses ne sont pas au sein du film. Je pense qu'il se clôture par une grande énigme. Mais je pense qu'on comprend quand même qu'il y a un travail d'évolution et réellement de rencontre, puisque, en effet, ces personnes, au sein du Théâtre de la Monnaie, rencontrent des artistes. Chorégraphes, danseurs, danseuses, musiciens, acteurs, actrices. Et là, ben, en fait, je suis là, présent avec la caméra, pour témoigner de ce qui se passe au sein de cette rencontre. Et le film, c'est un peu cette odyssée, je dirais, ce grand voyage.
Cette traversée,
en effet. Before we go, avant d'y aller, quoi.
Avant d'y aller. Et comment est-ce qu'on sort d'une telle... Parce que c'est au-delà, parce qu'il y a l'expérience de côtoyer effectivement les personnes qui sont sur le point d'aller de l'autre côté, enfin, ouf, quel que soit le nom qu'on puisse donner, en tout cas qui ont ce savoir. Finalement, c'est vrai que connaître plus ou moins l'heure de sa mort... C'est pas donné à tout le monde. Donc il y a cette expérience qui était une expérience concrète de travail, de faire à manger pour ces personnes. Et puis il y a l'expérience artistique après, qui est, je suppose, différente. C'est pas le même chemin qu'on fait avec des personnes qui sont dans la même situation, mais c'est pas du tout le même chemin dans les deux cas. Comment est-ce qu'on traverse soi-même ?
On navigue, malgré les turbulences, et elles ont été nombreuses, évidemment, entre autres parce que dans un contexte de film, bah, imaginez, en fait, il n'y avait aucune compagnie d'assurance qui a accepté d'assurer qui que ce soit, en fait, parce que les risques de décès étaient trop importants. Donc, ça s'est fait de façon extrêmement, à la fois urgente et précaire, je dirais. Mais ça a produit des choses assez immenses. D'un point de vue personnel, je pense que ça a modifié totalement mon rapport au cinéma et à la représentation, au rapport au cinéma documentaire aussi en particulier. Et puis, on parlait du soin. Évidemment, il y a eu toute une série d'événements, je dirais, qui peuvent être associés à des effets thérapeutiques, mais qui n'avaient jamais du tout été prévus au sein même du travail. C'est-à-dire que ces bienfaits étaient presque comme des effets secondaires de l'expérience. Et oui, donc ça a produit des choses de cet ordre-là. Alors, ben voilà, malgré tout, hein, je veux dire, il y a un principe de réalité qui fait que quand même ces personnes, ben, il s'avère qu'elles ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Donc l'enjeu, ce n'était pas de tout à coup aller à l'encontre de cette évidence de la mort, mais par contre de partager le fait que ces personnes s'autorisaient à représenter leur finitude, ça a été quand même énorme, quoi. Et ça a ouvert des portes, en ce qui me concerne, extrêmement importantes d'un point de vue purement personnel, intime, mais aussi artistique.
Artistique, oui. Donc ça veut dire que dans le travail, après, il y a un impact.
Oui, très clairement. Je pense qu'il y a... Mais d'ailleurs, je me souviens de la Meg Stewart, qui était une des chorégraphes qui travaillait au cœur du film, qui, le jour où elle a dit au revoir à Lydia, qui était devenue sa partenaire de jeu dans le film, Meg lui a dit « je ne danserai plus jamais de la même façon ». Et je pense qu'elle était sincère, oui.
Ouais. Donc on porte quelque chose quand on fait ce genre de
oui,
trajet.
Oui, on porte, je pense qu'on porte, on reçoit et on emporte en effet quelque chose de très clairement transformateur, je dirais.
D'accord. Donc ça, c'est à voir. Je me tourne vers toi, Isabelle, pour recadrer le programme. C'est donc à voir jeudi prochain, le 23, si je ne me... Oui, le 23, à Liex.
À Liex. Donc, pour refaire un petit topo du programme. Donc, le jeudi 23 à 10h, on vous attend à Maison Gertrude pour une visite guidée du Centre d'art. Et puis, il y aura la pause déjeuner. Après la pause déjeuner, il y a une rencontre de 14h à 16h donc, qui va plutôt mettre en présence des institutions et des artistes. Donc, il y aura notamment Clément Papacristou avec le Théâtre National, Marcella Santander-Corvalan, chorégraphe avec Jasmine Lebert du 3 Bicef, et André Pruès et Adèle Pion, qui sont deux artistes plasticiens, avec Thibault Leonardis de d'Art et Marge. Ces rencontres sont modérées par Camille Louis, dont j'ai parlé au début.
Donc Art et Marge, qui est aussi à deux pas.
Hein. À deux pas, oui, voilà. Et qui est aussi un des musées qui était partenaire du projet Centre d'art. Et puis, ça, c'est après ces deux heures de rencontre, on va tous se diriger vers l'IEX pour assister à la projection de Before We Go, et puis qui sera suivie par une rencontre modérée par Jasmine Lebert avec Jorge León. Et les participants, forcément. Et puis le soir, à 19h, lecture de la Fabrique des yeux secs au Centre Bruegel. Et le lendemain matin, on se retrouve à 10h à Maison Gertrude pour de nouveau 2 heures de rencontre, où là, on aura des éducateurs et éducatrices de l'autre lieu avec des usagers, usagères, bénéficiaires et Nicolas Mouzet-Agawa, qui est un artiste qui travaille régulièrement aussi à l'autre lieu.
Qui a créé, là, il n'y a pas très longtemps, au Théâtre National...
La vieille dame et le serpent.
La vieille dame et le serpent.
Et puis, on aura eu un médecin des hôpitaux universitaires de Bruxelles avec des artistes qui travaillent aussi dans des services de soins de l'hôpital. Et, évidemment, il faut que j'oublie le 3. Non, et on aura Carlos Bustamante et Julie Antoine, qui sont des artistes qui ont créé un spectacle parasismique autour de la maladie de la sclérose en plaques. Et donc, voilà, ce sera les tables rondes du vendredi matin de 10h à midi. Et on clôturera à midi.
Voilà. Donc ça, c'est le programme. Tout ce programme, est, si vous n'avez pas noté, est disponible évidemment sur théâtrenational.be. C'est ouvert à tout le monde. Toute personne qui s'intéresse à ces notions-là peut venir pousser la porte.
Exactement. C'est ouvert à toutes et à tous. Si vous pouvez vous inscrire sur le site, c'est bien. Comme ça, on a un peu une vision du nombre de personnes présentes. Mais si vous vous décidez en dernière minute, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Et donc, théâtrenational.be pour toutes les informations. Il y aura donc une rencontre après la projection de Before We Go.
Oui,
donc vous serez là.
Je serai là,
pour parler justement de ce qui prolonge l'expérience d'artiste et ses liens entre l'art, le soin et la citoyenneté. Ben, merci à tous les deux d'avoir été avec nous en studio. Et puis, bienvenue une prochaine fois pour continuer à parler de tout ça, parce que ce sont des beaux programmes que ceux-là de lier l'art, le soin et la citoyenneté. Ça fait du bien au monde comme il va maintenant. Voilà, et on se termine quand même en se disant que la vie est belle. C'est encore un choix de Yorkais, La vie est belle, de Brigitte Fontaine. Merci à tous les deux, merci à toutes et tous les auditrices, et à la semaine prochaine. Au revoir. Il prend ma taille rose.